La Maison de l'Habitat de Reims présente Focus Habitat.
Le Focus Habitat, c'est le podcast que vous propose la Maison de l'Habitat et c'est un rendez-vous aujourd'hui que je réalise en compagnie de Rita Mouya. Bonjour Rita.
Bonjour James.
La Maison de l'Habitat existe déjà depuis quelques temps maintenant et c'est l'heure de tirer un bilan là, pour ce numéro en fait.
En effet, c'est le moment justement de raconter un petit peu notre histoire depuis plus de 3 années, nos missions, de rappeler effectivement nos champs d'intervention, donc l'occasion de ce Focus Habitat, c'est une opportunité pour nous.
Alors justement, on va commencer par les services de la Maison de l'Habitat, à savoir justement qu'il y a une augmentation également de la fréquentation. Ça, on peut en parler d'ores et déjà.
Oui, alors pour la petite histoire, la Maison de l'Habitat donc, a ouvert en 2019, hein, janvier 2019, avec principalement comme activité l'enregistrement de la demande de logement. Donc depuis cette période, on est passé d'à peu près 900 publics accueillis sur l'année, à aujourd'hui un peu moins, aux alentours de 4000 sur une année.
La structure en elle-même a aussi évolué humainement, il y a un peu plus de gens aussi qui travaillent à la Maison de l'Habitat.
Oui, alors on est une équipe qui s'est agrandie, on a la chance donc de pouvoir avoir toujours deux personnes qui sont là pour enregistrer, on a une chargée de mission qui intervient un petit peu plus sur les projets en partenariat avec les partenaires, et puis on a accueilli tout récemment une alternante en communication qui vient en renfort de nos activités, de la promotion de nos activités.
Dans les chiffres que tu annonces, Rita, il y a aussi donc des choses un petit peu plus précises par rapport aux dossiers qui sont transmis aux différents organismes logeurs.
Oui, alors effectivement, j'ai commencé par annoncer qu'on avait à peu près une évolution entre 900 publics accueillis et 4000 aujourd'hui. C'est pas 4000 dossiers transmis aux organismes logeurs. On est vraiment là sur à peu près un peu moins de 50% des demandes qui sont transmises dans la mesure où les dossiers sont envoyés lorsqu'ils sont complets.
Oui, c'est ça. Vous êtes là pour, on va dire, accueillir le public et puis les aider à organiser leurs dossiers. Après, il y a des choses, des fois, qui n'aboutissent pas, quoi.
C'est ça, puisque, encore une fois, il faut un dossier complet. Donc, on insiste sur la complétude du dossier. Notre intervention, elle va être principalement sur l'accompagnement dans les démarches, dans la constitution des pièces pour nourrir le dossier, avec une mission de garantir que la personne a un dossier complet dans les règles de l'art que l'on peut transmettre aux organismes logeurs.
Voilà, et donc à partir de là, vous transmettez aux organismes logeurs et en général, après, les personnes qui vous ont contacté sont recontactées par les organismes logeurs eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Donc, alors l'avantage de venir à la Maison de l'Habitat, c'est que nous sommes en lien avec les 5 organismes logeurs présents sur le territoire. Donc, une fois que le dossier est enregistré et saisi complet, il leur est transmis à chacun d'entre eux. Ensuite, ce sont eux qui vont prendre le relais, puisque ce sont bien les organismes logeurs qui attribuent les logements.
D'accord. Vous avez une garantie de ça, d'un recontact en général? Vous avez un suivi de tout ça à la Maison de l'Habitat?
Alors, effectivement, notre rôle, au-delà de l'enregistrement, c'est aussi de renseigner le demandeur sur l'état d'avancement de sa demande. Donc, on a la possibilité de voir sur notre logiciel interne, qui est le logiciel national, de voir en fait les observations, les commentaires ou les actions qui ont pu avoir lieu sur le dossier du demandeur. Et dans cette mesure-là, nous sommes en capacité, quand c'est bien renseigné par l'organisme logeur, de leur dire, on vous a déjà proposé des logements ou votre dossier est à l'étude, il a été rapatrié, vous avez refusé, etc. Sachant que quand on refuse, souvent, on a des personnes qui arrivent et qui disent « Oui, mais je ne comprends pas, j'ai toujours pas de logement. » On regarde la demande, on voit qu'il y a 4, 5, 6 refus.
Il y a ça aussi qui peut, donc dans les choses qui peuvent retarder l'attribution d'un logement, et puis aussi le fait que quelquefois, c'est très long de trouver le logement adéquat.
En effet, les organismes travaillent en flux. C'est-à-dire que quand, admettons, moi demain, je fais une demande de logement, il n'est pas dit qu'après-demain, tout est complet, il n'est pas dit qu'après-demain, il y a le logement qui correspond à ce que je veux. Oui. Donc, ils sont bien obligés de s'adapter, en fait, à la composition de
la famille, tout ça,
à la location recherchée, au contexte, c'est-à-dire à la situation du demandeur, au revenu, à sa capacité aussi d'investissement dans le loyer. Donc, ils tiennent compte d'un certain nombre de critères qui leur permettent de... Voilà, ça rentre tout dans une petite moulinette. Et de voir quels sont les logements disponibles, qui correspondent en fait au profil et à la demande du candidat. Mmh. Ensuite, ils ne sont pas tout seuls à décider. Une fois qu'ils ont fait le lien, souvent le logement peut être proposé en visite ou passer d'abord en commission d'attribution logement, ce qu'on appelle la CAL. Une fois qu'il passe en commission d'attribution logement, le demandeur va se retrouver en première, deuxième, troisième ou exposition, sachant qu'il n'est pas le seul. Hein.
Oui, à être positionné sur un logement, effectivement.
C'est ça. Donc, s'il a de la chance et qu'il arrive en premier parce que ses critères sont supérieurs à d'autres, le logement lui est proposé en premier. Il peut l'accepter, le refuser. S'il le refuse, il est proposé à la personne qui vient juste après lui, et ainsi de suite. Par contre, il faut quand même être assez vigilant sur le nombre de refus et les refus non justifiés. Parce que les organismes logeurs peuvent considérer aussi que la personne n'est pas dans l'urgence. Voilà.
Alors justement, pour aller dans ce sens-là, pour expliquer un petit peu plus justement le fonctionnement de la demande de logement, on va s'arrêter quelques minutes sur ce dossier-là, avec justement, vous, votre mission, l'accompagnement des demandeurs de logement.
Alors, la maison de l'habitat, elle ne dispose pas de logement, je le rappelle, encore une fois, parce que c'est très 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 important de le dire. Nous, notre rôle, c'est bien d'accompagner le demandeur dans la constitution de son dossier. Ensuite, c'est l'organisme logeur qui va attribuer le logement après analyse des critères que l'on a évoqués tout à l'heure. Et puis, on va par contre veiller à ce que le demandeur qui est dans une situation bien particulière, parce qu'il y a des dossiers qui peuvent être prioritaires, qu'il ait les justificatifs qui vont bien pour lui permettre de positionner son dossier dans les critères nécessaires à l'étude de son dossier. Je prends pour exemple le handicap.
Oui.
Une personne qui a un handicap, elle rentre dans une priorité de logement. Faut-il encore que l'organisme logeur ait le logement qui correspond, qui soit disponible ? Par contre, ce qui est très très bien fait dans la demande CERFA, c'est qu'il y a un document qui permet de renseigner en fait ces informations de handicap. À cela, on va joindre l'attestation de la MDPH, ce qui va permettre justement de bien justifier la situation de handicap du demandeur.
Et là, on s'adresse bien donc à une typologie de logement bien particulière, en fait. Hein.
Tout à fait. Bon, après, la loi aujourd'hui impose que la plupart des logements soient étudiés de sorte, enfin, en tout cas, des nouveaux logements.
Oui.
Parce qu'on va pas les anciens. Il faut refaire des travaux pour les adapter, mais les nouveaux logements, qu'ils soient en accessibilité PMR.
Donc, les critères sont importants. Il y a donc l'accès au logement qui relève du plan départemental. Ça, c'est quelque chose aussi que tu voulais préciser.
Oui, alors on a effectivement, souvent les personnes nous disent « Oui, mais moi, ma situation, elle est prioritaire, je suis dans l'urgence. » Il y a parfois des dossiers qui sont bien plus prioritaires puisque le département de la Marne a des critères en fait d'urgence, des situations d'urgence, violence, viol, etc. J'en passe. Ce sont des critères qui donnent en fait une urgence au traitement du dossier. Donc ça, nous, on doit le signaler, en tout cas le formuler sur la demande.
Et puis, il y a bien sûr le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'emploi aussi. Ça intervient aussi dans le critère logement, quoi.
Alors, oui, on peut être sans emploi, on peut être au RSA et accéder à un logement. Il n'y a pas de frein par rapport à ça. Mais c'est vrai que, en gros, dans la demande de logement, on étudie la situation financière, tout simplement pour étudier la capacité que le demandeur peut mettre dans un loyer. Quand on est au RSA, il y a des logements, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de demandes sur des profils comme ça. Donc, ça veut dire que les logements ne sont pas forcément disponibles tout de suite. Voilà. Après, il y a des dispositifs, par exemple, quand on est dans l'emploi ou qu'on arrive sur le territoire parce qu'on a une mutation professionnelle et qu'on cherche un logement, il y a des situations d'urgence qui permettent aussi de dire, il est arrivé là pour un emploi et s'il n'a pas de logement, il peut pas commencer son travail, par exemple. Donc, ce sont des informations qui peuvent être prises en compte aussi dans l'étude du dossier. Donc, chacun des organismes logeurs en tient compte. On a aussi, pour les entreprises qui cotisent au 1% logement, ils ont la possibilité d'être accompagnés par Action Logement autour de la plateforme Aline, ce qui permet de rendre autonome en fait, le demandeur dans sa recherche de logement. Il lui suffit simplement d'avoir un dossier de demande de logement complet. Ensuite, il va sur la plateforme Aline, il crée son dossier, qu'il rapatrie grâce à son numéro unique de demandeur. Ensuite, il peut se positionner sur un logement qui correspond aux critères qu'il a renseignés.
Alors Rita, concrètement, quel est le délai moyen entre la demande d'un logement et l'attribution ?
Alors c'est une belle question parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Tout simplement parce que les dossiers sont étudiés au cas par cas.
D'accord.
Donc le délai moyen dépend de la situation,
de l'urgence, tout ça, ouais.
Dépend du flux. Comme je disais tout à l'heure, les organismes logeurs travaillent en flux. Donc ça dépend aussi du logement disponible au moment de la demande.
Ça veut dire que ça peut aller très vite quelquefois pour avoir un logement ?
Ça peut aller très vite, quelquefois, ouais. Pour avoir un logement, oui.
Ça peut jouer en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois.
Alors, c'est quoi le... dans tous les cas, je reviens à cette image de moulinette, hein, dans la machine, voilà, les logements disponibles ressortent face à la demande du logement. Ensuite, le dossier passe en commission d'attribution au logement. Donc, il y a toujours au moins un délai de une semaine, voire plus.
D'accord.
Parce que tous les dossiers doivent passer en commission d'attribution de logement.
Quoi qu'il arrive, les commissions, oui. En général, elles doivent se réunir quoi, toutes les semaines?
Oui, toutes les semaines.
Ouais. D'accord, très bien. Alors, bien maintenant qu'on a fait le point un petit peu sur cette méthode, on revient également aussi sur le fait que la demande se fait auprès d'un bailleur et qu'en fonction de toute cette possibilité, donc il peut y avoir du stock, il peut ne pas y en avoir, comme tu l'expliquais très très bien. Et donc, vous avez la possibilité, en tout cas, et c'est ça qui est impeccable dans l'histoire, d'être un interlocuteur unique pour finalement diffuser auprès de 5 organismes logeurs.
Exactement. Passer par la maison de l'habitat, il y a plusieurs avantages, effectivement. Le premier avantage, c'est ça, c'est qu'on ne refait pas 5 fois sa demande. Mmh. On l'a fait une seule fois. Après, il y a d'autres cas, c'est-à-dire que dans la plupart des demandes que l'on a, on a des nouvelles demandes, mais on a aussi ce que l'on appelle des demandes de mutation. C'est-à-dire, je suis déjà logé chez un bailleur, dans un organisme logeur, et je veux changer de logement pour X ou Y raison. La demande, en priorité, se fait auprès de son organisme logeur. Ensuite, l'organisme logeur, quand il n'a pas le logement disponible, il va demander au demandeur de se rapprocher de la maison de l'habitat, de sorte à ce que sa demande reparte dans le circuit commun pour pouvoir multiplier ses chances de trouver un autre logement adapté. Donc, pour ça, il est important de rappeler que c'est ce qu'on appelle aussi le parcours locataire, c'est que prendre soin de son logement, c'est très important, puisque l'organisme logeur, il va aussi vérifier comment on s'est comporté, en fait, hein, tout au long de...
Oui.
Voilà, de sa vie locative.
Une sorte d'histoire du locataire, quoi.
Voilà. Donc, il faut respecter son logement, il faut respecter son voisinage, il faut respecter le cadre de vie. Et donc, ça peut jouer. La relation aussi avec les organismes logeurs, il faut vraiment... parce que c'est... OK, on n'a pas... Des fois, on demande, on est agacé parce qu'on n'a pas, mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Donc ça, il faut aussi...
En tenir compte
et du coup être quand même dans les échanges assez cordiales.
Alors après, pour tout ce qui est justement l'attribution du logement, la visite, tout ça, là vous avez passé la main, c'est vraiment l'organisme logeur qui gère. Hein.
Exactement, donc le dossier rapatrié, l'attribution se fait par l'organisme logeur, il va proposer une visite au demandeur. Donc là, le demandeur va pouvoir aller visiter et se positionner ou pas sur le logement qui lui est proposé.
Concrètement, toutes les pièces justificatives, la façon de remplir le dossier, tout ça, ça compte en fait.
Oui, et notamment quand vous avez une nouvelle pièce à ajouter à votre dossier. Alors souvent, l'organisme logeur, quand il a rapatrié, va vous demander telle pièce justificative. Donc vous pouvez leur donner, mais pensez systématiquement à soit informer la maison de l'habitat, ou si vous le souhaitez, venir déposer votre document à la maison de l'habitat parce que ça part dans le circuit commun.
D'accord, que vous soyez aussi alerté finalement.
C'est ça, tout simplement parce que si la situation change ou elle évolue, si le document n'est donné qu'à l'organisme logeur, elle reste dans la base. Et on est confronté par moment à « mais je vous ai déjà donné telle pièce
». Et
je vous ai donné... non, mais on ne la voit pas, on ne l'a pas, parce qu'elle reste en fait en interne. Donc, par vigilance, simplement, même si vous la rajoutez vous-même sur la plateforme, puisque chacun peut avoir accès à son dossier en ligne, nous appeler pour qu'on puisse vérifier le document et le valider.
Que vous l'ayez aussi, quoi.
Qu'on le valide, parce qu'en fait, chaque pièce qui est mise dans un dossier doit être validée.
D'accord.
Donc, on doit valider, en fait, l'exactitude de la pièce.
Alors, il y a bien sûr ce champ d'intervention très visible de la maison de l'habitat, donc pour aider tout le monde à trouver son logement. Mais il y a d'autres champs d'intervention également autour de l'accession à la propriété, par exemple.
Oui, alors là, on a évoqué juste avant tout ce qui était démarche et aide pour l'accès au logement. Maintenant, la maison de l'habitat, elle a d'autres compétences. Elle va intervenir effectivement sur l'information autour de l'accession sociale à la propriété. C'est pas elle qui le fait directement, mais elle va vous orienter ou diffuser les actualités, les informations des partenaires. Donc, dans la boucle de la maison de l'habitat, aujourd'hui, il y a Immocop, qui va gérer tout le patrimoine du foyer Rémois et de Reims Habitat, qui a aussi des programmes qui lui sont propres. Et puis, il y a MCCA, qui va, lui, gérer le patrimoine d'accession sociale à la propriété de Plurial Action Logement.
Et il faut savoir que tout le monde peut prétendre à ce type de prestation finalement.
Alors, il y a une priorité en fait dans l'accession sociale à la propriété, dans le patrimoine en fait des organismes logeurs. Il y a une priorité qui est accordée aux locataires. Ensuite, passé un certain délai, si le locataire ou les locataires ne se sont pas positionnés sur les offres, ça c'est ouvert en fait au grand public. Donc effectivement, tout le monde pourrait prétendre à un logement acheté dans un parc social.
Et justement, pour aider à tout ça, il y a aussi un organisme qui s'appelle Action Logement.
Alors oui, maintenant, Action Logement, on le connaît, il est d'utilité sociale, il fait plein d'actions pour les jeunes, les entreprises, mais pour les salariés d'entreprise aussi. Donc en fonction du bien que l'on souhaite acquérir, par exemple, si on décide d'investir ou d'acheter dans le neuf et qu'on est primo-accédant, et que l'entreprise cotise au 1% logement, il y a aussi des possibilités d'être accompagné avec des subventions, des aides à taux très très réduits, des prêts à taux très réduits. Et pour ça, le mieux, c'est de se rapprocher d'Action Logement pour éventuellement faire une étude.
Toutes les structures dont on vient de parler, là, bien sûr, on retrouve les références, les adresses, les liens vers les différents sites internet sur le site internet de la Maison de l'Habitat.
Effectivement, vous allez sur le site lamaisondelhabitat-reims.fr, vous avez différentes rubriques, dont une rubrique accession. Et là, vous verrez en fait en ligne les dispositifs d'aide de l'État qui peuvent être mobilisés, mais aussi les offres des partenaires et le lien vers leur site pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations.
Alors, outre l'accession sociale à la propriété, dans vos autres champs d'intervention, il y a également le volet rénovation. Et actuellement, il est très important aussi ce volet-là.
Alors oui, donc la Maison de l'Habitat, on est vraiment là sur ce volet-là en tant que plateforme d'information et d'orientation. Donc c'est pas la Maison de l'Habitat qui va
gérer les
accompagner
dossiers,
voilà, sur la gestion des dossiers. Par contre, on a cet avantage d'héberger au sein de la Maison de l'Habitat le Comal Solia. On avait à l'époque aussi des permanences d'Octave. Et donc, ce sont des structures, elles, qui sont spécialisées et financées spécialement pour les habitants du Grand Reims pour accompagner les particuliers dans leur démarche, dans l'étude de leur dossier en vue d'une rénovation, que ce soit dans le privé ou dans le collectif.
Et puis, il y a tout un tas également d'informations que vous allez donner dans le Grand Reims autour de ces différents thèmes. Là, tu peux détailler, bien sûr, tous les différents rendez-vous que vous proposez.
En effet, alors, on a un volet, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est bien vivre dans le Grand Reims. Parce que c'est bien d'avoir un logement, mais il faut savoir aussi comment habiter en fait son logement et le contexte actuel nous montre que quand on prend l'exemple par exemple des éco-gestes de l'augmentation du coût de l'énergie, etc., il y a de quoi faire en fait dans le bien vivre dans son logement, bien vivre dans le Grand Reims. Donc en fait la Maison de l'Habitat va pouvoir, à travers des ateliers, à travers des temps de rencontre, notamment les permanences de l'habitat dans le Grand Reims, qui est animé par Constance et que vous avez déjà pu voir, ou encore des permanences dans les mairies de proximité, qui ont été un petit peu stoppées ces derniers temps, mais qui vont reprendre très prochainement. On est au rendez-vous pour les habitants du territoire, pour qu'ils puissent venir nous poser leurs questions et qu'on puisse les orienter sereinement.
Alors, tu viens de parler des permanences de l'habitat, mais il n'y a pas que ça comme animation, il y a une grosse animation également à destination des jeunes qui s'appelle Ça déménage.
Oui, alors donc nous avons eu la troisième édition de Ça déménage le 1er de juillet dernier. Donc ce sera un rendez-vous annuel. Effectivement, cette année, nous sommes assez contents parce que c'était pas loin de 200 personnes que l'on a accueillies pour les informer, les orienter sur le logement étudiant, ou en tout cas ou le logement jeune, puisque ça concernait les jeunes de moins de 30 ans, comment habiter sur le territoire du Grand Reims avec l'ensemble des partenaires de l'accompagnement et de l'habitat.
Et il y a d'autres rendez-vous également que vous honorez. On vous voit sur différents forums, des salons. Là, tu as quelques exemples à nous donner ?
Oui. Par exemple, nous sommes présents sur des salons comme le Parc des Possibles, comme le Salon étudiant ou encore le Salon Habitat et Jardin. D'autres salons en fait thématiques qui parlent d'habitat, qui parlent de logement, qui peuvent parler aussi d'emploi. Puisque je reviens en fait sur le Parc des Possibles, où on va parler du dispositif Mon Logement, Mon Emploi. Parce que quand on cherche un emploi, parfois il peut y avoir des freins liés au logement.
Tu parlais justement, il y a quelques secondes, au travers du Parc des Possibles, d'un dispositif qui est en lien avec l'emploi. Et justement, tout au long de l'année aussi, vous travaillez sur un dispositif qui s'appelle Mon Logement, Mon Emploi.
Oui, alors Mon Logement, Mon Emploi, c'est un dispositif expérimental que l'on a mis en place avec Partage Travail 51 et aussi les acteurs de l'emploi et de l'insertion tels que Pôle Emploi, Mission Locale et autres. L'idée était de s'appuyer sur la demande de logement. Pour les publics qui n'arrivaient pas à accéder à un logement, parfois les freins étaient liés au fait qu'il n'y avait pas de situation, ni de RSA, ni d'autres aides ou dispositifs de retour à l'emploi ou de retour à la formation. Donc l'objectif de ce projet, c'était de proposer d'être accompagné dans sa recherche de logement tout en ayant une action volontaire, puisqu'en fait les candidats qui ont été retenus sur le dispositif, ça part du volontariat, pour être accompagné vers une formation adaptée à ce qu'ils souhaitent réellement ou vers un emploi par rapport à des offres d'emploi disponibles. Donc sur l'année, par rapport au dispositif, c'est 90 personnes à peu près qui ont été identifiées éligibles en fait au dispositif, puisqu'on avait fixé des critères de l'économie sociale et solidaire. Au final, donc on a pu réellement contacter une soixantaine de personnes, et parmi eux, ceux qui se sont engagés d'eux-mêmes dans le dispositif, il y en a à peu près 17 aujourd'hui qui sont accompagnés et suivis aussi bien sur le volet emploi que sur le volet logement.
Alors effectivement, quand on a balayé tout ça, on se rend compte quand même déjà de l'importance du travail mené tout au long de l'année par la Maison de l'Habitat. Mais vous vous en tenez pas qu'à ça, puisque vous avez aussi envie de faire un petit peu de sensibilisation en plus.
Alors effectivement, c'est notre rôle de faire de la sensibilisation, pas tout seul, avec les partenaires spécialisés dans les domaines. Nous sommes un petit peu le chef d'orchestre. Et à ce titre, on a lancé récemment Mon Petit Geste au Quotidien. On s'inscrivait bien dans la semaine du développement durable, avec des actions autour d'une pensée qui était celle du colibri. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire du colibri, c'est que si chacun de notre côté, on fait un petit geste, au final, ça fera un gros geste.
Exactement. C'est quand on additionne le tout, les conséquences sont toujours géniales, finalement.
C'est ça. J'invite, en fait, tous ceux qui nous écoutent à poster sur les réseaux des exemples d'éco-gestes ou leurs petits gestes à eux qui leur permettent de faire des économies, de réduire leurs factures, d'être plus inclusif dans la société, avec bien évidemment l'hashtag Mon Petit Geste au Quotidien. Ça nous montrera qu'ils soutiennent cette action et je pense qu'ensemble, on arrivera à changer un petit peu les choses.
Donc, un petit geste, une petite vidéo en fait.
Une petite vidéo, une petite photo, à vous de voir.
D'accord, ok. Pas besoin que ce soit d'ailleurs une vidéo, une photo suffit alors.
Oui, une photo, enfin la vidéo c'est 10 secondes, c'est
oui,
vraiment...
Oui.
Ce que je fais au quotidien.
On fait le petit geste.
Voilà, mon petit geste au quotidien.
Mon petit geste au quotidien. T'as des petits exemples comme ça? Pour bien faire comprendre au public justement ce que ça peut être.
Par exemple, tout le monde est censé connaître ce petit geste, mais je me brosse les dents, je ferme l'eau.
Voilà.
Ma douche ne dure pas plus de 5 minutes, par exemple. Ou encore, je sors d'une pièce pour pour un long moment, j'éteins la lumière.
Voilà.
Et puis encore un dernier qui va concerner nos ados et notre petite jeunesse, c'est je débranche mes appareils une fois qu'ils ont fini d'être chargés.
Voilà, voilà. Donc ça s'appelle Mon Petit Geste au Quotidien. Vous faites le hashtag quand vous postez votre photo, votre vidéo, et comme ça, vous pouvez relayer à la Maison de l'Habitat également tout ça. Il faut savoir qu'il y a des petits cadeaux aussi à la clé.
Oui, alors en partenariat avec GRDF, on aura effectivement un petit lot qui sera remis en fait à l'action, à la vidéo, au petit geste qui aura été le plus apprécié, le plus liké.
Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, donc allez-y, vous aussi, montrez votre petit geste au quotidien à tout le monde et nous, avec la Maison de l'Habitat, on se fera un plaisir de relayer. Et bien voilà, merci pour ce beau bilan, Rita. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt.
Oui, on se donne rendez-vous très bientôt. Et surtout, on se donne rendez-vous pour le 24 novembre, journée nationale de la précarité énergétique, autour de laquelle sera réunie différents partenaires, justement pour clôturer mon petit geste au quotidien, même si on pourra le poursuivre tout au long de l'année.
Et ben voilà. À très bientôt, Rita.
À bientôt, James. Au revoir.